9h, dans le bureau de Par Jupiter.
On reçoit Terre Noire. On reçoit Terre Noire.
Bonjour Gégé.
On est sûr qu'elle a pris des vacances, Juliette?
Non, mais Terre Noire, c'est un groupe de musique qui vient de Saint-Etienne,
oui,
comme elle.
Ah,
oui,
d'accord. Saint-Etienne, tu veux dire la célèbre ville de lumière et de beauté.
Voilà, juste après Paris et Venise.
Ouais, Las Vegas, tout ça.
Oh, je vous entends, hein. Ça va suffire, les sarcasmes.
Attends, faut reconnaître que vous, là, à Saint-Etienne, entre Terre Noire et Bernard Lavilliers, on vous entend un petit peu beaucoup pour des gens opprimés.
Ouais, parce qu'il y a par le charbon, qui est quand même la plaie de l'écologie. Vous faites quoi dans votre ville moche?
Alors, déjà, on a arrêté le charbon en 1983. Oui, et puis, les trucs moches, c'est à la mode. Regarde la guerre, c'est moche. Et pourtant.
Oula, attends, parce que si vous connaissiez ma ville, moi, je suis hyper à la mode. Hein. La Louvière, en plein charbonnage.
Attendez, faites pas trop les malines, là, avec votre fashion week des villes pourries, là. Je vous rappelle que je viens de Vesoul, quand même.
Oui, bah, Vesoul, vous avez une chanson aussi. Et merci Brel, merci la Belgique.
Ouais, mais attends, parce qu'à Vesoul, on souffre. Il y a aucun commerce ouvert après 18h.
Ouais, bah, chez moi, il y a aucun commerce tout court.
Ouais, mais nous, c'est si moche que les gens, ils se crèvent les yeux.
Ouais, bah, nous, c'est si pauvre que les gens, ils ont même plus des yeux à se crever.
Attends, parce que quand tu tapes Vesoul dans le GPS, même lui, il te supplie de pas y aller.
Quand tu cherches la Louvière sur une carte, elle pleure des larmes de sang.
Ah ouais, bah, quand tu sens,
ça suffit. Mais enfin, vous essayez de prouver quoi, là?
Ça va, désolé, on s'est un peu emporté.
Ouais, on a trop l'esprit de compétition dans cette équipe. Tu sais comment on est, la win. Nous, c'est toujours la win.
Mais de toute façon, on sait tous que dès qu'il s'agit de montrer qu'on galère et que notre vie est nulle, c'est qui les plus forts?
Ouais, évidemment. Ouais.
C'est les verts.
Voilà. Merci.
France Inter et bienvenue dans le Parti de la Blague et Canal Historique. Donc voici la pensée du jour, on ne devrait jamais quitter Saint-Etienne. C'était
et
ça
pourtant...
ou tout ça ne vaut pas un clair de lune à Saint-Etienne. C'est ton choix, j'en ai plein. Allez, voici le sommaire. Le retour de la guerre en Europe modifie notre perception du courage et de la résistance. Les dissidents russes sont un symbole de courage. Les Ukrainiens, bien sûr, leur président. Et peut-être même que l'Europe retrouve un peu de courage politique. Il n'y a qu'à voir Macron qui ose parler à Poutine.
Je sais pas si moi tu vas te casser la gueule, tiens.
Pas trop, non.
Ouais, ça doit être ça, l'orange.
Annie Ernaux, dans le journal Libération, affiche son choix de vote pour le premier tour de la présidentielle. Plus encore, elle estime que c'est un devoir de prendre position. Pas sûr que tous les artistes pensent de même. Pas sûr non plus que tous les artistes soient des valeurs ajoutées pour les candidats.
Explique-moi, comment, toi qui es complètement dingue, tu peux imaginer savoir ce qui est bon pour les autres?
Le dernier genre musical en date, qui aura peut-être un jour sa victoire de la musique, c'est la bedroom pop. C'est le jeune qui lance un tube planétaire depuis sa chambre, avec ses propres moyens, au nez et à la barbe de l'industrie musicale et de ses parents aussi.
Rien de me foutre que ces après-midi dégénérés, à 3 mois de ton bac. T'as pas foutu un mot de l'échec.
Je m'en fous du bac, je fais du rock.
Et aujourd'hui, à mes côtés, c'est bien sûr Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour, et à nos côtés, Charline, en l'honneur de nos invités, une équipe de révélations. Elle ne saurait être épatée par une victoire de la musique. Pas besoin de hochet pour les artistes dignes de ce nom. Mais révélation, ça va, on n'est que dans le pédiluve de la célébrité. Bonjour Mélanie Bauer.
Bonjour, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un petit portrait d'artiste avec les artistes en face de moi. Donc
Vous avez tout donné alors.
Je vais tout donner.
Ça va être beau.
Moïse avait eu la révélation, Dieu lui demandait de guider son peuple hors d'Égypte. Lui, il estime que des puissances supérieures lui demandent de guider la parole des vrais gens.
C'est vrai.
Sur les ondes de Radio France. Amen. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour Juliette, bonjour tout le monde. Et moi j'ai parlé des réfugiés ukrainiens avec le peuple de France, figurez-vous. Parce qu'on accueille ces réfugiés de l'Est alors qu'on accueille un peu moins ceux du Sud.
C'est ce qu'on appelle être un petit peu raciste. Quoi.
Un petit peu léger, je dirais.
Et enfin, ma mère me disait tout récemment qu'elle aimait beaucoup sa tête de, et je la cite, « sortie de l'œuf ». Moi, je trouve surtout qu'il a souvent l'air d'avoir vu la Vierge. Bonjour Thomas VDB.
Bonjour les amis. Eh bien moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la bombe nucléaire. La bombe nucléaire.
Un peu de détente.
Ça va être rigolo.
Et oui, et voici ceux qui vont remettre le laminoir au milieu du village. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Je suis Raphaël.
Et Théo, et nous formons tous les deux Terre Noire.
Oh,
le groupe
oui,
Terre Noire.
C'est pas vrai.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Théo et Raphaël du groupe Terre Noire. Donc votre premier album était sorti en septembre 2020, Les Forces Contraires. Aujourd'hui vous proposez la suite, c'est inédit, La Mort et la Lumière. Et vous avez reçu la victoire de la musique de la révélation masculine de l'année il y a 3 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que le pain a le même goût?
Non, tout a changé.
Les
biscottes ont un goût de caviar. Non, très honnêtement, on a énormément travaillé depuis. Là, on sort d'une longue semaine de répétition avec les musiciens, parce qu'on a toujours joué à deux depuis. Et là, on accueille des musiciens avec nous. Voilà, les victoires, c'est un peu plus de pognon pour faire de la musique.
Depuis la victoire, vous avez viré tous les autres musiciens.
Non, on était que deux. On était que tous les deux.
C'est seulement additif.
Donc voilà. Et là, ça fait quelques jours, on commence à rire beaucoup plus avec mon frère. On sent qu'on se détend et qu'on savoure, mais ça a pris bien 3 semaines. Ouais.
On sent qu'il y aura peut-être, en tout cas pendant un moment, un peu plus de confort, de travail. Ça vous laisse finalement peut-être vous permettre plus de vous projeter.
En tout cas, on espère, et ce qu'on observe, c'est que les gens viennent un peu plus nous voir au concert.
Ouais.
Donc c'est déjà formidable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire notre métier qu'on a eu du mal à faire ces 2 dernières années avec la pandémie. Et voilà. Donc là, on attend de voir si c'est l'effet victoire va ramener du public dans nos salles de concert, tout simplement.
Oui. Avec cette suite de l'album, donc ce nouvel album, on peut dire, qui est sorti juste à ce moment-là, en plus.
Mais est-ce que les victoires, ça ramène des gens en salle plus ou moins que faire la pub pour Intermarché? Faire une pub très jolie avec une de vos chansons.
C'est quasiment un clip. Hein,
ouais, pub, c'était une histoire assez étrange et jolie. C'est-à-dire que tout d'un coup, on nous propose de faire un clip pour notre chanson qui va aller passer à 20h55 tous les soirs pendant des semaines et des semaines. La chanson s'appelle Jusqu'à mon dernier souffle. Et c'était vraiment une espèce de Deus Ex Machina. On pouvait pas faire de musique autrement, on pouvait pas montrer notre musique autrement, pas faire de concert. Et donc tout d'un coup, on nous a donné une espèce de petite étoile de Super Mario, comme ça, genre au milieu de la noirceur, la possibilité de raconter notre chanson en entier, parce que cette pub durait 3 minutes, ce qui n'existe pas. Et donc Jusqu'à mon dernier souffle a touché les gens à ce moment-là. Ouais.
Et est-ce que ça va les amener jusque dans les salles?
C'est déjà arrivé.
Ouais.
On s'est rendu compte, là, on a eu la chance de faire une quarantaine de concerts depuis août 2021. Et quand même, la télé a quand même ce pouvoir encore assez puissant de ruisseler dans tous les territoires. Et du coup, on pouvait aller un peu partout, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, et avoir quand même du monde à chaque passage, quoi.
Et oui, peut-être un nouveau public. Alors, vous rééditez le premier album, Les Forces Contraires, et en même temps que sort le deuxième, qui est considéré comme la suite, La Mort et la Lumière. Il y a donc une vraie continuité entre les deux. Il n'y a pas une rupture, il y a une sorte d'harmonie qui fait que on écoute les deux à la suite.
Ils sont pas pensé au même moment, mais par contre c'est comme si on avait, dans l'idée de Force Contraire, on avait le début, qui était donc la situation dans laquelle on se trouvait, la mort de notre père, on écrit un disque, voilà, c'était pas spécialement ce qu'on voulait traverser avant d'écrire notre premier album, mais c'est ce qui s'est passé, et on s'est rendu compte en l'éprouvant justement pendant les concerts qu'on avait beaucoup de titres très intimes, très chargés, et qu'il nous manquait l'énergie vitale qui était revenue en fait en nous.
Ouais.
Et donc on a commencé à écrire des chansons pour le concert, pour le live, pour l'énergie, avec beaucoup de kick et de lumière à l'intérieur. Et en fait, on s'est dit, mais on a plein de chansons et on n'a pas fait une petite suite avec 2-3 trucs, le petit remix machin. On a fait 7 nouvelles chansons, ce qui fait que maintenant il y a 17 titres et on a fini l'objet maintenant, quoi. Voilà.
Juliette,
il y a beaucoup de chansons qui traitent de l'intimité, de la vraie intimité, notamment de la sexualité. C'est un truc qui ça fonctionne comment sur scène, ça?
Baise-moi, c'est l'intimité.
Alors, ça dépend pour qui, en fait, Charline. Ça dépend pour qui. Il y a des gens qui ne sont pas très très pudiques avec ça, mais vous l'êtes.
C'est pas un espace de pudeur, je pense, la création. Après, nous, on l'est. C'est-à-dire, là, on est très gênés de parler.
Oh là là.
Justement,
la scène, c'est des endroits où ça peut parler. Nous, le sexe était le contrebalancement de la mort, justement. C'est un peu Eros et Thanatos. C'est tout d'un coup, la sexualité, c'était la vie à l'intérieur de l'autre, la présence de l'autre, qui nous permettait de justement exprimer cette chose sans cerveau, sans intellect. C'était tout d'un coup l'évidence. Je pense que quand on traverse des deuils, le sexe est aussi, enfin, c'est pas trop dit, mais je pense que c'est des moments où on se reconnecte énormément à la vitalité absolue, quoi. Donc je pense que c'est pour ça qu'on l'a traité autant à ce moment-là.
Je ne peux que plus soigner.
Vous avez l'air troublé, Juliette.
Oui,
reprenez-vous, parce que vous avez sûrement une question sur Saint-Étienne.
Oui, j'avais
remettre sur les rails.
Ça détrouble Saint-Étienne souvent.
Comment on appelle les pommes de pain en Stéphane?
Des babettes. Non, ce n'était pas une question sur les babettes, c'était une question sur qu'est-ce que c'est Saint-Té. Moi, j'arrive toujours pas à le dire et je suis bien plus âgée que vous. Est-ce que je vois à peu près ce que c'est que d'être Marseillais. Il me semble commencer à piger ce que c'est que d'être parisien. Saint-Étienne, vous le définiriez comment? C'est quoi être de Saint-Étienne?
On va parler d'état d'esprit doux, je trouve. humble. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humilité et assez politisé finalement. Moi, je me rends compte que adolescent, jeune, quand on commençait à fumer les premières roulées dégueulasses sur les cafés du coin, tous les jeunes parlaient politique. Et j'ai eu le senti, on parle beaucoup autour de moi d'une France qui se politise et voilà, de tout ça. Et moi, j'ai vécu plus ou moins le contraire dans la ville de Saint-Étienne.
C'est des villes où il y a eu énormément de luttes sociales, en fait. C'est-à-dire que désindustrialisation, nos grands-pères ont été mis en retraite anticipée très jeunes. Ils travaillaient à la manufacture d'armes, notre grand-père. Donc ils ont foutu tout le monde dehors très très vite. Mmh. Donc il y a eu des moments de lutte d'ouvrières très puissantes. Et c'est resté dans le tissu associatif aussi. Donc pour moi, c'est une ville de fierté et de lutte. Qui est de déclin et à la fois qui est en train de renaître à travers la vie associative, le tissu associatif.
C'est ça.
Là, c'est un peu une ville comme, je sais pas, Détroit ou d'autres villes, ou Manchester ou des villes comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se remettre à je trouve des hyper intéressantes pour les enjeux du siècle qui arrive. Et là, on est en plein dedans, quoi. Ah,
d'où la musique, si vous citez Manchester. Théo, vous vouliez dire quelque chose?
Manchester. Non, Raphaël parlait des réseaux associatifs. Et en effet, Saint-Étienne, il y a une des villes avec le plus d'associations en France, quasiment.
Exactement.
Et une des villes la plus mélangée, si ce n'est Marseille, après Marseille.
Ouais, c'est ça.
Donc, bon.
Saint-Etienne, où vous jouez au Zénith le 5 avril, car vous êtes en tournée, on donnera les dates pendant l'émission. Et comment définir Saint-Etienne? Juliette, vous posiez la question. Eh bien, Terre Noire répond avec Bernard Lavillier. Je tiens d'elle.
Je tiens d'elle, ma Saint-Etienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qu'on passe souffert. Je suis noire, je suis belle. Je suis fumée, poussière, vacarme assourdissant. Mais ça, c'était avant.
Il faudra que je parte, mais promis je reviens. Poser ma rose fière sur la terre des anciens. Je ferai rugir les gares, les rêves de grands chemins. Il faut bien que je parte pour devenir quelqu'un.
Au quartier du soleil, quand j'apprenais la boxe, pour secouer les grilles de l'avenir branlant, brûlant comme une torche que n'éteint pas le vent, j'ai franchi l'océan. Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qu'on va souffrir. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne. Il faudra que je parte. Le tramway du désir à 5 heures du matin. Les paupières mi-closes, la musique sur pause. Les mains calaminées et les rêves en sursis. La guitare, si lointaine, me parle de pays, d'Amazon en cavale et de femme fatale. Il fallait que je parte.
Je crache mes poèmes, je crache mes premières cigarettes. Je gueule dans l'usine morte, les entrailles ouvertes. Milliers d'arpèges dans le garage, chasseur d'orage à vélo. L'aventure c'était les fruits volés, les plans d'eau. Si mon cœur est bizarre, c'est peut-être que mon accent est bizarre. Tous les mots que j'écris jaillissent de ma terre noire. J'ai tordu la vie pour elle. Dans ces forges imaginaires, je suis pas un marin, mais j'ai pris la mer.
Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qui n'a pas souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne. Oh, ma première guitare, ma petite espagnole, qui ressemble à un voilier. Le manche a tant souffert sous mes doigts malhabiles, mes rires, mes colères. C'est ma mère qui me l'a offert. Elle m'attend quelque part. Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qui
m'ont pas souffert, je savais pas bien comment devenir ce musicien. Partir loin d'elle, ouvrir mes ailes, quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne. Ma Saint-Étienne.
Un titre qui figure sur le dernier album de Bernard Lavilliers avec Terre Noire que nous recevons. Il est 17h23 à Lyon.
C'est un sale coup que je viens de vous faire.
Juliette, qui pour entourer Raphaël et Théo, Terre Noire?
Eh bien, une équipe plus brave que belle, objectivement. Mélanie Bauer, Thomas VDB et Guillaume Meurice.
C'est pas faux, malheureusement.
Avec qui nous allons faire un journal.
Ça nous distrait du vrai choc de civilisation. Il y a effectivement, oui, nous nous sommes aspirés vers l'Est par cette guerre, alors que nos problèmes sont au sud.
Le journal de presque 17h17.
Moi, je vais vous dire un truc, chef. C'est avec des conneries comme ça qu'on fait une guerre.
Et on commence par les titres.
Le réseau social TikTok annonce suspendre la création de nouvelles vidéos en Russie.
Ah, c'est le seul moment où on se dit que la guerre a des bons côtés, quand même.
Écarté de la campagne de Yannick Jadot, Sandrine Rousseau a déclaré « Je ne veux plus faire de la politique dans des groupes du Ku Klux Klan ».
Ah, et on se dit que fumer de la weed dans les loges des plateaux télé, ça a des bons côtés aussi.
Et donc, en conclusion de ces titres, Guillaume ?
Eh bien, ne jamais demander à Sandrine Rousseau d'aller négocier la paix en Ukraine au nom de la France. Voilà. Ce qu'il fallait démontrer, en quelque sorte. Et on commence donc par cette fameuse guerre en Ukraine.
Oui, Gérald Darmanin dénonce le manque d'humanité de Londres.
C'est fou parce qu'il porte exactement le même nom que celui qui demande aux flics de détruire les tentes des migrants. Vous avez vu ? C'est le même, ouais. Même nom. Oui, Gérald Darmanin, c'est le
oui,
même
mais,
nom.
Oui, mais c'est le, là, c'est le même en fait.
Mais non, c'est pas possible, c'est... ça serait trop gros. Non, c'est impossible. Voilà, mais par contre, il y a le même nom. C'est marrant.
Et pour continuer à parler de la guerre en Ukraine sans utiliser les termes interdits par le pouvoir russe, le journaliste français Paul Gogo a tweeté. Place rouge fermée en prévision d'un événement qu'on ne peut pas qualifier en public contre un événement qu'on ne peut pas qualifier et qui a lieu dans un étranger proche.
Ouais, on dirait ceux qui bossent sur la télé de Bolloré quand ils essayent de parler d'un milliardaire qui achète des médias pour rendre des gens cons.
Des gens qu'on ne peut pas qualifier, ce dire
Non, des gens cons, tout court. Des gens cons. Ouais, ouais.
International toujours, Donald Trump a proposé de bombarder la Russie avec des avions américains déguisés en avions chinois pour créer de la tension entre les deux pays.
Oui, oui, oui. Et je pense que quand Trump il joue à cache-cache, il ferme juste les yeux et il dit « Ça y est, c'est bon, je suis caché, c'est bon. » Hop, je peux pas être vu.
En France, Laurent Fabius a annoncé tout à l'heure le nom des 12 candidats à la présidentielle.
Oh, bah, moi, ça, je m'en fous. Parce que je vais vous dire, plus rien n'a de saveur pour moi.
Ah Charline, bon? Mais ça vous intéresse plus d'un coup comme ça, la politique?
Si, mais sans lui, il n'y a plus rien. Y a
sans
plus...
lui,
mais
non, si, ne me dites pas que vous avez rechuté.
Oui, Arnaud Montebourg me manque, j'arrive. Arnaud, reviens.
Hashtag grand Arnaud. Ouais, super. De son côté, Marion Maréchal Le Pen a annoncé son ralliement à Éric Zemmour lors de son dernier meeting.
Ouais, bah, j'ai fait les comptes. On n'entend plus que le ralliement de Marine Le Pen à Éric Zemmour. Et puis normalement, ils sont complets.
Et on enchaîne avec ce coup de théâtre. François Rebsamen appelle à voter pour Emmanuel Macron.
Non ! C'est pas possible, Charline, que vous êtes incroyable ! Oh là 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 !
Okay, attendez, je vois, vous voyez pas du tout qui c'est en fait.
Si, oh bah alors si ah, Fabien Ramen, là, c'est un mec.
François Rebsamen.
Oui, je connais, bien sûr, je connais. C'est le mec qui a le garage.
Hein ?
Non, c'est le cuistot, c'est celui qui a, le resto.
Bon, hier, dans le journal de 11h30 de France Info, Yasmine Mina Adila a donné une information donc concernant une panne électrique. Écoutez.
Dans les Côtes-d'Armor, 7000 foyers étaient privés d'électricité encore ce matin à cause d'une panne dans un transformeur électrique.
Et oui, un transformeur électrique. On remercie les Avengers qui ont intervenu immédiatement.
Science maintenant, des chercheurs en neurosciences de l'université d'Oxford ont mis en lumière ce qui se passe dans notre cerveau quand on change d'avis sur un sujet.
Hein, il devait avoir Aurore Berger comme cobaye.
Merci Guillaume Meurice. 17h27 sur France Inter avec le groupe Terre Noire. Et on va aborder ce thème que vous nous avez suggéré d'ailleurs sur le courage. Alors on a choisi de parler du courage des Ukrainiens qui est admiré dans le monde entier. C'est la guerre qui nous fait réfléchir à cette vertu, cette notion de courage. Mais le courage, est-ce accepter qu'on va mourir ? Et vous n'avez pas 4 heures, on aura 4 minutes. Mais voici un exemple de courage qui confine, je dirais même, à l'héroïsme. Écoutez bien.
Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie.
À la Russie ou à Vladimir Poutine ?
La Russie, à Vladimir Poutine, à son gouvernement, mais le peuple russe en paiera aussi les conséquences. Soyons clairs, nous voulons viser le cœur du système russe, nous visons Vladimir Poutine, nous visons les oligarques, mais nous visons aussi toute l'économie russe. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
C'est le héros de toute une nation, c'est Bruno Le Maire sur France Info face à Marc Fauvel la semaine dernière. La Croix, par exemple, publie une chronique aujourd'hui intitulée « Ukraine, le retour du courage en Europe ». Le courage, c'est le thème d'actualité que vous nous avez suggéré, Raphaël et Théo. Alors, c'est à cause de la guerre qui vous est venu ce thème ou c'est un...
En fait, c'est beaucoup de cette espèce de questions que j'entends autour de nous en ce moment, c'est « Et toi t'irais te battre ou pas s'il devait y avoir la guerre ?» Et c'est un peu la naissance de ça, c'est de se dire finalement, est-ce que c'est ça le courage ? C'est cette montée de... On parle beaucoup de force et de faiblesse en ce moment. C'est-à-dire, tout d'un coup, Poutine serait le fort parce qu'il est guerrier. Et puis, l'Europe aurait été très faible pendant très longtemps parce qu'elle n'était pas assez guerrière. Et tout d'un coup, là, on serait en train de redevenir très très fort. Ouais. Et je trouve
la virilité, quoi.
Le virilisme que ça pose, je me plaît pas du tout. Parce qu'il y a catastrophe sur catastrophe, le rapport du GIEC qui est arrivé et qui dit que ce virilisme, cette dimension de conquérant qu'ont les humains, n'est pas bon du tout pour la planète. Donc je trouve qu'il y a quelque chose où, tout d'un coup, alors c'est pas ça le courage, forcément, ce n'est pas que ça le courage, mais je trouve que voilà, je me suis perdu, voilà, je l'exprime, je suis perdu face à cette idée de qu'est-ce qui est courageux aujourd'hui d'être et de faire, quelle posture, est-ce que c'est de se dire... je trouve que c'est admirable la dimension, tout ce que cette résistance ukrainienne, c'est magnifique et à la fois je peux pas me réjouir de voir des mamies armées. Je sais pas comment dire.
Réduire le courage non plus à la guerre.
Non, peut-être qu'il y a un courage de désarmer ou peut-être qu'il y a un courage de faire moins, de pas se hisser à la hauteur des cinglés, mais peut-être de faire en sorte, je sais pas, que les Anglais le sont un peu moins, ou qu'ils arrivent un peu moins au pouvoir, je sais pas. Donc c'était pas une espèce de dire que le courage, c'est une valeur extraordinaire, mais de quel courage on doit parler.
Une réflexion à partir de là. Il y a une chanson qui s'intitule Je veux du courage, où vous dites dans le texte, le courage et la peur sont liés.
C'est ça.
D'où vous est venue cette envie de parler de courage, bien avant la guerre, là.
Le courage n'est pas la bravoure. Ou l'héroïsme, c'est très différent. L'héroïsme, c'est, je crois, le temps des héros, c'est le temps des guerres, justement. Et peut-être que le courage, c'est la répétition d'une toute petite vertu quotidienne qui est justement, qui n'apparaît justement pas en temps de guerre, ou en tout cas qui n'est pas créée par la guerre, qui est juste tenir droit sa ligne de vie, justement ne pas être ébranlé, ne pas bouger face à des événements très complexes ou très difficiles, je sais pas.
Réfléchissez à ces questions.
Un courage bien Jean Kélévitien.
Très bien. Ils savent qu'ils sont sur France Inter, demain sur France Culture et dans toute la France en tournée Terre Noire. On va parler donc de votre album avec Mélanie Bauer.
Oui, je suis retournée un petit peu au tout début de l'histoire. Alors, il y a une dynamique particulière dans le duo, beaucoup de couples dans la musique, et puis parfois des frères, on a PNL, on a Big Flo et Oli, Fiskara, et puis ici, Terre Noire. Cette intimité, c'est une plongée dans un monde qui se construit dès l'enfance sur les antagonismes et la connivence. Alors même si vous avez 6 ans d'écart, hein, c'est ça ?
C'est ça, absolument.
Et Théo, on sent que la mécanique, votre mécanique est basée sur l'échange. Je m'explique, les compositions de Terre Noire, ce sont des titres qui intègrent bien les codes de tous les genres musicaux, folk, chansons, électro, et puis qui les tordent comme si, à force de vous challenger l'un l'autre, vous alliez chercher les limites du possible dans une chanson.
Je sais qu'on est trop nombreux, que nous manquerons d'arbres et d'ombre. On court le long des courants de l'arakiri du monde.
Bon. Je sais mon amour. Alors, vous me direz, ici, c'est la fin du monde. Mais bon, c'est un bon exemple de ce qu'on trouve dans ce disque. Le piano est romantique, simple, classique, mais il est distordu. Il veut volontairement nous mettre mal à l'aise, casser les codes, comme pour nous dire, attention, nous ne sommes pas des artistes de variété. Alors, je sais que vous avez beaucoup puisé votre inspiration dans le deuil, ce sentiment très étrange hein, que l'on ressent face à la mort, comme si le réel n'avait plus d'un seul coup de sens. Et ce qu'on ressent en écoutant votre disque et vos disques, c'est comme si on regardait le monde au travers d'un miroir déformant. De vous faire passer pour des chanteurs sous LSD, hein. Vous êtes pragmatique, vous avez monté votre label, vous êtes très bien entouré et vous avez très bien compris le business dans lequel vous vous êtes lancé, d'ailleurs avec succès. Ce que je dis, c'est que vous êtes construit un monde où toutes les musiques actuelles existent et se superposent comme des cœurs à un monde qui cherche à aller voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, à l'image de la pochette des Forces Contraires et de toute votre imagerie qui est surréaliste. Ça va aller. Hein.
De l'ombre du départ, n'aie plus peur de la mort, n'aie plus peur de la mort. Plus j'avance dans la vie, plus je m'allège, plus ça fait peur, plus je m'aligne. Dans les ténèbres, je vois des lumières, ils voient la mort, je tiens ma ligne. Mon amour, tu me fais du bien, l'océan en toi me retient. J'ouvre les yeux sur ce qui est beau, j'ouvre le gris sur ce qui est bleu. Je me mélange au monde, je me mélange à toi. Tu rêves au ravin, la vie est à moi. Doigt dans ton désir, clé du brouillard, embrasser fort le frais de la vie. Flèche dans le ciel, battement de cils, t'es l'aveu du beau du dernier horizon. T'es l'avion, la lave et la grande énergie sur le monde. Je serais déçu que tu ne chantes pas le chant de la joie pure. Que tu ne chantes pas. Ça va aller, ça va aller, ça va aller la vie. Ça va aller bien. Ça va aller, ça vaut le coup, ça va aller, ça vaut le coup. Ça va aller bien. Allez. Regarder la neige faire du béjar, vouloir plus que ce que l'on a déjà. Le printemps se fait sentir, comme ça tombe bien je pense qu'à sortir. Je marche exprès sur des orties, voir si la douleur est partie. Mon amour tu me fais du bien, ton soleil en moi se dépose. Je suis le gamin de l'histoire sans fin, jamais loin du dragon rose. Je serais déçu que tu ne chantes pas le chant de la joie pure. Que tu ne chantes pas. Ça va aller la vie, ça va aller bien. Ça va aller, ça vaut le coup, ça va aller, ça vaut le coup. Ça va aller bien.
Une feel-good chanson, ça va aller, Terre Noire.
Ah oui, qui sort son deuxième album, enfin la continuité du premier, Les Forces Contraires et La Mort et la Lumière, sorti depuis le 4 février, donc c'est tout frais.
Tout frais.
Sept titres inédits dans cette continuité. Puis vous êtes en tournée le 10 mars à Toulouse, donc c'est très bientôt ça. Oui. À Tulle, 18 mars.
Oui.
Et on l'a dit à Saint-Étienne le 5 avril, le 16 juillet au Francofolie de La Rochelle, le 20 juillet au Francofolie de Spa en Belgique. Quelle bonne idée. 17h38 sur France Inter, donc avec Terre Noire et Guillaume Meurice, bien sûr, de Vesoul.
Oui, oui, bah, j'ai justement ça un lien, je vais vous parler de la guerre. De la guerre. C'est la guerre. Alors comment on sait que c'est la guerre? Ils ont ressorti BHL du formol. On savait plus qu'il existait sur toutes les chaînes. C'est fou. Dès que vous voyez BHL sur un plateau, c'est que c'est la merde quelque part. C'est vraiment le symptôme d'une épidémie de gastro-verbale. C'est la guerre donc en Ukraine, car Poutine, l'homme mi-dictateur mi-botox, croit visiblement qu'il y a des gisements de collagène dans le Donbass. Donc il a envoyé son armée et les gens fuient, sauf les hommes qui sont obligés de rester pour la bagarre. Autant vous dire que si ça se passe chez nous, ceux qui vont défendre la patrie. Bon, ben, c'est Thomas VDB et moi. On prendra Frédéric Fromet, mais commencez à apprendre le russe quand même, à mon avis, au cas où. Voilà. Non, mais on est nul en bagarre. Hein, on est nul en bagarre.
Tout à fait.
Mais on est bon en solidarité, nous les Français. Anne Hidalgo, elle a allumé la Tour Eiffel en jaune et bleu. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il était dégoûté, Vladimir Poutine. Il paraît, il a supprimé les pistes cyclables sur la place rouge. Plus de pistes cyclables. Il a fermé toutes les biocopes à Saint-Pétersbourg. C'était vraiment la folie. Enfin, on est bon en solidarité, mais le peuple de France, est-ce qu'il est prêt à se faire grand remplacé par des Slaves? Est-ce qu'il faut accueillir les réfugiés d'Ukraine? Je suis allé voir nos compatriotes dans les rues.
Bah oui, il faut qu'on les accueille quand même. On n'est pas des sauvages.
Ouais, ça veut dire qu'il faut accueillir les autres aussi alors?
Non, les autres, ils font pas partie de l'Europe.
Ouais, donc que l'Europe alors?
Que l'Europe. Ça suffit, on a assez d'emmerdes comme ça, non?
Je suis bien d'accord, que l'Europe. Mais alors attention, pas les Roms non plus. Voilà, bah c'est technique l'accueil des réfugiés. Mais les Roumains, oui. D'ailleurs, à l'époque de Ceausescu, on les a accueillis, hein, puisque bon, bah, Juliette, Terre Noire, voilà. Hein, vous venez de Saint-Etienne, mais c'est la même chose, je veux dire. La Roumanie de Ceausescu et Saint-Etienne, voilà. Vous êtes des réfugiés politiques, donc on aide les Ukrainiens.
C'est normal qu'on les aide. Alors, faut arrêter, c'est des gens qui ont la même culture que nous.
Vous savez quoi, la même culture que nous?
Bah, ils parlent le français, hein, ils
tous.
Bah ouais.
Ceux qui viennent se réfugier.
Ils ont fait travailler, hein. Ils ont bossé chez moi, des peintres.
Ah ouais?
Bah alors, c'est
les
anglais.
Ukrainiens, c'est des bons peintres?
C'est un bon prix, c'est nickel.
Bah c'est nickel, ouais, c'est même pas cher l'ukrainien en plus. Donc ouais, ça moufte pas, puis quand ça moufte, c'est en français. Donc que demande le peuple? On a envie même de dire merci Poutine. Moi j'ai mon salon à repeindre, donc si la guerre pouvait durer un petit peu plus, ça m'arrangerait. Et puis s'ils vont envoyer la Pologne, je veux bien, parce que j'ai un problème de plomberie. Bref, on accueille.
Et il faut le faire. Mais parce qu'il y a une totale différence. Eux, ce sont des réfugiés politiques, véritablement, alors que les autres, ce sont des réfugiés économiques.
Qui c'est les autres alors?
Les autres, ceux qui viennent d'Afrique du Nord et tout, c'est la vraie fumisterie.
Mais dans les pays d'Afrique, est-ce qu'il n'y en a pas qui fuient la guerre?
Hein?
Non, je sais plus. Moi-même, j'avais oublié la question. Je sais plus de quoi on parle. Est-ce qu'il faut faire le tri?
Non, il n'y a pas un tri.
Mais la question, c'est est-ce que c'est pas un peu un raisonnement raciste?
Non, c'est pas un raisonnement facile, c'est un raisonnement logique.
Mais on a l'impression que c'est un peu par couleur de peau qu'on trie.
Ah, absolument pas.
Non.
Je suis pas raciste, mon colocataire, c'est un Tunisien.
Ah ben voilà, non, d'accord, ok, ça c'est un bon argument. Voilà, pas de racisme, puisque son coloc est Tunisien. D'ailleurs, la guerre, c'est toujours l'occasion de la foire aux bons arguments. Le député modem Jean-Louis Bourlange, il se félicitait de voir arriver une immigration de qualité. Est-ce qu'on est d'accord avec ça?
Voilà, c'est la vérité.
Et qu'est-ce que c'est une immigration de qualité?
D'abord, ce sont des gens qui sont cultivés, qui ont un certain niveau.
Ouais.
Et puis, c'est des gens qui, quand même, s'informent, comme tout le monde, avec Internet.
Mais pas les Syriens.
Bah, les Syriens, c'est compliqué.
C'est compliqué, mais oui, parce que au niveau du Wi-Fi, déjà, ils n'ont pas Internet. Nous, on peut s'informer sur Internet, comme les Ukrainiens. Le seul point commun qu'ils ont avec les Ukrainiens, les Syriens, c'est que c'est aussi les Russes qui les bombardent. Donc bon, les réfugiés, je dirais oui, mais bon.
Oh, pas tous, hein, parce qu'il y en a qu'un.
Alors comment vous faites
Il y a des bons et des mauvais.
Il y a le bon et le mauvais réfugié.
Voilà, il faut les choisir, il faut voir leur mentalité.
Comment on fait pour choisir au niveau de la mentalité?
Les voir, ceux qui sont courageux, ceux qui n'y sont pas.
On accueille que les courageux.
Voilà.
Bah ça c'est une bonne, je crois, c'est une bonne manière de faire. Et on peut même renvoyer les non courageux qu'on a chez nous. Bon, le problème c'est qu'il n'y a plus personne pour faire l'émission demain, du coup. D'ailleurs, le courage en langue patriarcale se dit les couilles. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais avant les vacances et avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, j'avais interrogé un mec qui me disait que la qualité de Poutine, c'est qu'il avait des couilles. Des couilles. Et ben je l'ai recroisé. Est-ce qu'il a changé d'avis?
Poutine a des couilles.
Le problème, c'est les couilles, alors. Parce que la dernière fois, c'était une vertu, j'ai l'impression.
Mais c'est toujours une vertu.
Ah bon ?
C'est toujours une quête d'en avoir. Mais le problème, c'est que c'est le seul à avoir des couilles.
Oui, voilà, je crois que c'est vraiment... Ben là, c'est bien résumé. Je crois que c'est vraiment ça le problème aujourd'hui. C'est qu'il n'y a que Poutine qui a des couilles. C'est vraiment un manque de testicules, en fait, au niveau mondial. Avec peut-être aussi le fait que les dictateurs, les vendeurs d'armes et les autres complices des autocrates nous les cassent allègrement.
Guillaume Meurice, merci. Oui. C'est donc encore plus pire en temps de guerre. Et ça, c'est pas la bonne nouvelle.
Ben, la guerre, ça révèle les gens, hein, souvent.
C'est vrai que Théo et Raphaël, en tant que petits-enfants d'exilés espagnols qui ont fui Franco, hein, vous appelez Herreras, ça a dû bien résonner à vos oreilles, ces histoires, j'ai l'impression.
Ouais, ouais. C'est pas nouveau, ouais. Je crois, d'entendre ça dans ce pays, mais au moins on a ri aujourd'hui.
Ouais, déjà.
L'Espagne, ça va, l'Espagne, on prend.
C'est très courageux,
les Espagnols.
Oui, qualité, ils font bien la cuisine.
Moi, voilà, c'est très bien. J'aime assez bien.
J'aime la paella, ça passe.
Juliette Arnaud, un thème pour nos amis de Terre Noire.
Le risque du positionnement politique quand on appartient au monde artistique, eh ben, il est très clair, c'est perdre des lecteurs ou des spectateurs. Ou des auditeurs. Merci Guillaume. Annie Ernaux, écrivaine majeure, le sait, mais passe outre dans le journal Libération. On sait pour qui elle votera à la présidentielle. On sait aussi qu'elle espère ne plus avoir à le faire, voter à la présidentielle, vu que son candidat propose une refonte de la Ve République. Bref, il ne s'agit pas seulement de mettre son nom sur une liste, il s'agit de s'engager. Mais vraiment.
Offensive.
Bien.
Offensive.
Très bien.
Je choisis la solution offensive.
Ouais, ok.
Offensive.
Ouais, ça va très bien, on a compris.
Offensive, je choisis la solution offensive. Offensive, je prends la solution. J'ai choisi, ça y est. J'ai mis du temps à me décider, mais voilà, là, ça y est, je suis sûr de moi. Je prends l'offensive.
C'était un extrait du film Podium et on entendait Jean-Paul Rouve. Alors, je vais tuer le suspense. On sait pour qui Annie Ernaux va voter. Elle va voter pour Mélenchon. Elle précise d'ailleurs que ce sera la troisième fois. Alors, je ne vais pas vous demander à Théo et Raphaël de Terre Noire, je ne vais pas vous demander pour qui vous allez voter. Je vais plutôt vous demander si vous savez, à 47 jours du premier tour de la présidentielle, pour qui vous allez voter.
Oui.
Oui.
Et alors, pour qui? Pour qui?
Attention. Non.
Très bien. Parce que Annie Ernaux, donc dans cet entretien, dans ce long entretien, elle dit très clairement tout de suite, et elle dit que selon elle, c'est un devoir selon elle de prendre position. Vous en pensez?
C'est un devoir de se foutre dans la merde avec la non-offre politique. Hein,
vous en pensez quoi de ça? Ça vous a fait quel effet quand vous avez lu l'interview?
Prendre position.
Cette idée de devoir prendre position, oui.
Souscrire à un candidat, par exemple.
Par exemple.
De toute façon, vous, c'est Pécresse, on le sait, hein, Madame Saint-Etienne.
Valérie. Oui, c'est ça, exactement. L'engagement politique dans les chansons, il est... C'est un sujet qui est complexe parce qu'il faut le réussir correctement. Il faut que ce soit fort en musique. Nous, on essaye de le penser en hacking un peu. C'est-à-dire je pense qu'on essaie de saupoudrer nos idées à l'intérieur de chaque chanson, de pas en faire des slogans, parce que j'ai l'impression que ça peut perdre la force. Enfin, faire une chanson slogan qui donne une leçon, je trouve que ça n'a aucun impact d'engagement et de puissance politique, justement. J'ai l'impression que c'est la manière dont on peut s'organiser, les espaces de parole, la manière de faire des concerts, la manière de tourner, pour qui on s'adresse, en fait. Et nous, on essaie justement, à l'intérieur de Terre Noire, d'avoir une musique qui est populaire, justement.
Et justement, dans le sens... vous vous imaginez dans une espèce de famille de chanteurs ou de groupes comme ça qui ont un côté, on chante pour les ouvriers, je sais pas, je pense à Springsteen, je pense au Clash, je pense à Renault en France ou à Zebda.
C'est complexe parce que j'ai l'impression que la France, est-ce qu'il y a une classe ouvrière comme elle l'a été ça. Au moment de Lavilliers?
Je ne sais pas. Répondez à cette question.
C'est vraiment complexe. Dans la manière dont on essaie de parler de notre coin, de notre quartier, de le porter avec nous, qui est un quartier d'une grande banalité, d'une grande normalité, mais qui est notre enfance, dans la manière dont on essaie de parler dans Jusqu'à mon dernier souffle, par exemple, on parle de...
territoire.
Des gamins des lotissements. On sait que... En fait, les gens, quand ils viennent nous voir en concert, ils sentent cet endroit-là. C'est-à-dire, ah tiens, c'est marrant, vous parlez de nos vies à nous. Je ne sais pas si c'est un engagement qui est politique, en tout cas. Enfin, je pense qu'il y en a un d'une certaine manière, en tout cas dans la manière dont les gens nous répondent ou viennent nous parler à ces endroits-là.
Mais ça ne sera pas nominal. on ne saura pas pour qui vous allez voter.
Non, je parlais pas
d'accord, ouais, je l'avais senti.
Et puis il y a tellement de polarisation aujourd'hui, je pense que le travail des artistes ou des cuisiniers ou des... Je sais pas,
des artisans en tout cas.
C'est comment on fait pour essayer de mettre les gens ensemble un petit peu maintenant, où c'est tellement évident que chaque prise de position crée une espèce de dislocation et de déstructuration des gens les uns contre les autres.
Et Théo, vous qui êtes le plus jeune, vous vous sentez représenté?
Par l'offre qu'il y a, par les
12 par exemple, par les 12 qui ont eu leur parrainage.
Ah, pas totalement, non, mais
oui, ça aide pas, donc.
J'ai pas grandi en tout cas dans un environnement politique où je me suis senti à quelconque moment de ma vie représenté par qui que ce soit, tout à fait. Je sais pas, j'ai de la place pour entreprendre et vivre des choses et trouver ma liberté aussi de mon côté. Ensuite, je vais tout faire en sorte pour qu'on n'ait pas des fascistes au pouvoir. Quoi.
Voilà, très bien. Thomas VDB, dites-nous. Alors oui, en parlant de fascisme, oui, je sens qu'il y a rien.
Bonjour fascisme. Bonjour à tous. Alors vous savez, moi, il y a une chose que les gens me disent souvent, c'est ce qui est bien avec tes chroniques, Thomas, c'est que même quand il y a des mauvaises nouvelles, t'arrives quand même à nous faire rigoler. Et je voulais dire, faut pas non plus exagérer au niveau des mauvaises nouvelles non plus. Bien que si vous trouvez que mes chroniques sont proportionnellement drôles à la gravité de l'actualité, préparez-vous littéralement à exploser de rigolade, là, vraiment. Non mais c'est vrai que là on est arrivé à un point de mauvaise nouvelle où la semaine dernière je suis descendu à ma cave pour vérifier son niveau d'aménagement. Donc je me suis dit mais il n'y a pas d'eau potable dans cette cave, il n'y a pas de riz, il n'y a pas de bougie, alors je suis allé en acheter tout un stock au cas où. C'est vrai que c'est dur d'être serein parce que là on parle trop de nucléaire dans l'actualité quand même. Hein. Je sais pas si vous avez vu la semaine dernière, il y a un ministre russe à l'ONU qui a dit « Mais vous savez c'est vous qui avez parlé de nucléaire en premier, nous on n'a pas dit le mot, donc si vous parlez de nucléaire, nous on répond en parlant de nucléaire. Alors si je peux me permettre d'intervenir, on dit que personne n'a dit le mot nucléaire, d'accord ? C'est une erreur, on annule le mot, on supprime le mot nucléaire, c'est tout simple. Parce qu'aujourd'hui, la situation est telle que chacun est vraiment en état d'alerte, quoi. On est d'accord, chacun stresse, et quel que soit son niveau de vie. Hein, je me dis, même Jeff Bezos ou Bernard Arnault, ils sont en train de se dire, on n'a quand même pas accumulé autant de thunes pour que ça se termine comme ça, quand même. Vous allez dégoûter, les mecs. Je me dis, à la rigueur, les seuls qui doivent réussir à relativiser, c'est tous les gens qui sont cancel, finalement. Je me dis, Harry Habitant, PPDA, ils sont tous là, bah allez, Poutine, fais tout péter, qu'on en parle plus, là, c'est tout. Nicolas Hulot, il est en train de marcher sur les cailloux en Bretagne. Et, allez, appuie sur le bouton, Poutine, là, c'est fini. Mais bon, le seul truc vaguement positif dans tout ça, c'est que le dialogue n'est pas rompu, comme disait Guillaume. C'est vrai que Macron, voilà, il continue de parler avec Poutine. Et en plus, j'ai lu des articles et apparemment, ils se tutoient tous les deux. Et ben ça m'a rassuré. Je me suis dit, tout n'est pas perdu. Alors, je sais pas si le tutoiement existe en russe ou c'est une initiative du traducteur. J'ai pas vérifié, mais je préfère attendre un peu. C'est pratiquement la dernière raison que j'ai de garder espoir. Tu vois, de me dire à un moment, oh, j'espère que le tutoiement existe. Voilà. Mais puis ce qui est bien, c'est qu'au plus Macron il garde son sang-froid, parce qu'on n'en sait rien, c'est vrai, à son allocution il aurait pu arriver en panique et dire, mes chers compatriotes, vu comment ça schlingue, moi je me naque ça. Il doit bien avoir bunker caché quelque part. Hein. Mais c'est vrai que c'est dingue de se dire que Zelensky, le président ukrainien, il était humoriste avant et aujourd'hui il doit faire la guerre. Et perso, ça m'emballe pas trop parce que j'avais pas imaginé que le cursus d'humoriste puisse mener à ça à un moment. Enfin, bon. Je me dis, en tant que comique, le maximum qu'on puisse se prendre dans la gueule, c'était des tomates, à la rigueur. Et Poutine, c'est pas avec des tomates qui nous menacent, c'est avec la bombe atomique. Et alors l'autre jour, il y a un journaliste de Sud Radio qui a posté comme ça sur Internet, il dit, bah ça me fait rire tous les commentateurs qui font dans leurs culottes, mais vous voyez pas qui bluffe. Et le mec, il se fout de notre gueule parce qu'on a peur de la bombe atomique. Le mec, il dit, ah les bébés cadavres, ils ont peur de la bombe atomique. Je dis, mais de quoi t'as peur dans la vie si t'as pas peur de la bombe atomique, là? Puis c'est facile de faire son malin avec un pari comme ça, parce que si le gars il perd son pari, ben il y aura personne pour lui faire remarquer. Ou si tu veux vraiment avoir le temps de lui faire remarquer, il faudra vraiment être à côté de lui au moment du champignon. Hein, vraiment, faut faire ah perdu. C'est fini. Mais je me dis finalement Zemmour et Le Pen, ils avaient raison. C'est vrai qu'il y a un grand remplacement prévu. Juste, ils n'avaient pas vu venir, c'est que ça allait être un grand remplacement russe. C'est vrai, ils regardaient pas dans la bonne direction. Alors moi je vous le dis, c'est vrai que j'aime bien mon pays, mais si pour nous éviter une bombe nucléaire, il faut se mettre à apprendre le russe, moi je suis ok. Hein, vraiment, il y a pas de problème. Alors il y a certainement des gens qui sont choqués par ce que je dis, qui sont là, ouais, traître à la nation, ouais, mais moi, comme je dis toujours, la souveraineté du pays, c'est bien, mais pouvoir continuer à vivre, c'est mieux. C'est vrai, c'est un truc que je dis toujours, ça. Chez moi, j'ai un rond de serviette où c'est écrit dessus. Mais c'est vrai que le problème, c'est que Poutine est trop tendu, et ça se voit. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'on pourrait faire qui pourrait détendre Poutine? Je sais pas, c'est un système d'huile essentielle, ou peut-être des tisanes ou de l'ASMR. Moi, je veux bien lui en faire, je vais détendre. toi, Vladimir. Sois moins impérialiste. Tu vas faire des bruits comme ça. Mais je dis franchement, même s'il n'y a aucune solution, ma limite, Poutine, je suis prêt à aller le sucer. Vraiment, pour le détendre. Vraiment, faut qu'il se calme. Non. Alors, traître à la nation, ok? Mais vous direz pas que j'y mets pas du mien. Hein, parce que c'est pas pour mon plaisir, c'est pour l'avenir de la planète, les mecs. Hein. J'ai le sens du sacrifice. Bon, alors, sucer peut-être pas, mais je suis prêt à aller le masser. D'accord? Je lui fais un bon massage. Je me déplace au Kremlin. Je vais voir Vladimir pour le masser. Voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que Poutine n'a pas France Inter. Parce que je me dis, s'il entend ma chronique, il va croire qu'il y a un autre comique qui lui cherche des noises.
Merci Thomas VDB. Le Kremlin a appelé, la guerre est finie. C'est
okay,
bon.
Ok, super.
Merci Thomas. Avec Terre Noire, on poursuit avec cet autre thème. Un genre musical a fait son apparition sur les plateformes d'écoute. La bedroom pop. On est pourtant loin de la musique de chambre. La bedroom pop désigne les chansons fabriquées par des jeunes musiciens seuls dans leur chambre et qui atteignent parfois les dizaines de millions d'écoutes au nez et à la barbe de l'industrie du disque. La bedroom pop, et puis qui sait après la kitchen pop ou encore et la suite. Alison Wheeler, chanteuse de salle de bain, voilà. Alors donc ça se caractérise par un son de basse qualité, parce que fait que les moyens du bord, mais des thèmes très intimes. Je ne sais pas si vous avez déjà jeté une oreille à ce style musical porté par le Girl in Red ou Gus Dapperton, du Clairo.
Gus Dapperton, c'est trop bien Gus Dapperton. Ouais, mais ça fait de nombreuses années maintenant déjà.
Alors, il paraît que ça fait 10 ans que ça existe.
Oui, ça existe depuis longtemps.
Parce que finalement l'appellation
bedroom,
songwriter, producer, comme vous avez dit, pop.
Bedroom pop qui était un terme au départ utilisé par les journalistes musicaux un peu de niche comme ça, et puis maintenant ça devient des playlists sur les plateformes.
Oui, mais parce que moi j'ai l'impression de faire partie de ça, d'être celui qui a craqué le logiciel de musique dans la chambre de mon frère quand j'ai 12 ans d'apprendre à faire ça avec les tutoriels de l'internet. Uh-huh. Donc pour moi c'est la génération là. C'est drôle que ça soit médiatisé dans ce sens-là comme c'était la nouvelle chose, mais je pense que tous les musiciens qui ont mon âge ou même 30 ans, en fait, c'est tous des autodidactes qui ont commencé tout seul dans une chambre.
Billie Eilish, elle a fait son disque dans sa chambre, en fait. Quoi. Ouais.
Je pense à des grandes artistes, je pense
pas. C'est elle qui a lancé le mouvement, d'ailleurs. On a commencé à dire ça avec elle.
Ah, ok, ouais, c'est quand c'est devenu mainstream, en fait.
Ouais.
Et alors, ces jeunes artistes, quand on leur demande ce qui fait l'authenticité des textes, la réponse, c'est la chambre. Ils disent, voilà, c'est l'endroit où je passe le plus de temps et où je suis la version la plus honnête de moi-même. Vous, quand vous composez et que vous écrivez, où est-ce qu'on la trouve, la version la plus authentique de vous-même? Il y a des endroits.
On a notre studio à Paris qu'on a pu s'acheter tous les deux avec Raphaël et un autre ami Lucas. Et bon, ça c'est l'endroit, c'est l'atelier de l'artisan quoi. Ouais. C'est l'endroit où tous les jours on va travailler les musiques, travailler les morceaux, travailler les textes. Et voilà, à la manière d'un artisan en fait, notre métier c'est exactement la même chose.
C'est votre endroit, c'est votre atelier.
Tous les jours on va faire des pains et c'est le fou quoi.
Pour l'écriture, moi c'est quand même
tu t'es un peu en
quand même avant la douche, dans le café en slip. Genre vraiment dans un état un peu comme ça de sauvagerie.
Ah oui, alors attendez parce que j'ai l'image, donc c'est un peu troublant. Mais d'accord, très bien Raphaël, je note.
Mais je veux dire, ce truc pour l'écriture, moi c'est le côté café froid posé à côté du bureau et...
Oh là là,
et
ouais, je vois bien.
Café froid soluble.
On aura tous les trucs, ne donnez pas tous vos trucs à votre après. Juliette Arnaud, on va même en savoir un peu plus avec un questionnaire de Parjupi Proust.
Sur l'échelle qui va de 0 à 10, de l'entente parfaite entre frangins, 10 tout en haut étant Castor et Pollux, tellement proches qu'ils sont ensemble dans le ciel, les Gémeaux, 0 étant les frères Gallagher qui envisagent de se réconcilier mais après la mort, à combien vous situez-vous ?
9.
Ouais, on se met un petit 9, ouais.
Tranquille. Avec quel artiste stéphanois pourriez-vous partir en tournée ?
Bernard Lavilliers.
Ah ouais, Bernard Lavilliers au Fiscara. Ouais.
Ok, avec quel artiste lyonnais pourriez-vous partir en tournée ?
Pomme.
Ah oui, excellente idée. Vous devez faire un concert, mais c'est moi qui vous impose le lieu. C'est ou la place Rouge, mais en ce moment, ou la place Bellecour, mais à Lyon.
Ouais, la place Bellecour. Tranquille. On est pour la paix des peuples.
Le courage, on a bien dit.
La paix des peuples.
Avec quel autre duo d'artistes vous aimeriez faire un quatuor? Je vous propose soit les frères Gallagher, soit les deux restants vivants des Beatles, soit les Sir Williams.
Oh, les Beatles quand même.
Oui, oui.
Il y a Ringo quand même.
Oui.
Hein.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Ça va pas, Ringo?
Bah, c'est pas George Harrison, c'est pas John Lennon, vous voyez, c'est pas...
Oui, non, mais c'est quand même.
Ok, très bien.
C'est quand même Ringo.
Si vous deviez changer de nom de Terre Noire, donc, pour le nom d'un quartier de Paris, est-ce que ça serait plus la Muette, les Enfants Rouges ou les Filles du Calvaire?
Je dirais Clichy, moi.
Ouais, Clichy. Ouais. Ouais. Bon, ça pas plus. Bon, alors. Attends, on va changer.
La muette.
La muette.
Fille du calvaire ou enfant rouge. On en mange un bon gars aux enfants rouges.
Enfants rouges.
Ouais, je suis d'accord. Dernière question, Charlie.
Les enfants rouges, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être les gens savent pas tous que
c'est un quartier où on mange très bien.
Ouais. Parce qu'à Saint-Étienne, tout le monde sait pas ce que c'est les enfants rouges à Paris, par exemple.
Oui. Eh bien, c'est un des quartiers de Paris. On y mange très très bien.
Absolument.
C'est pour ça que vous l'avez choisi.
Oui, tout à fait pour ça.
Très bien.
Allez, dernière question. Quelle personnalité politique emmèneriez-vous volontiers tout en haut du Pila pour le pousser, bien évidemment?
À savoir que c'est Ponce Pilate qui a donné le nom à Pilate, qui serait tombé.
Voilà, bah justement, qui prendrait la suite de Ponce Pilate.
On peut en prendre qu'un seul?
Non, vous pouvez, je vous en donne deux.
Bon, on prendra un bus avec pas mal de gens dedans. Deux? Ah oui, ok.
Ouais.
Ah, nous, on en a deux?
Ouais, vous pouvez en emmener deux, vous êtes deux, vous pouvez en emmener deux.
Zemmour, assez fort. Le Pen assez fort.
Okay. Bah voilà, on a les deux. Oh bah c'est réglé. Allez hop. Merci beaucoup Théo et Raphaël.
Merci.
De Terre Noire. C'était un plaisir de vous accueillir.
Merci. Partagez.
Merci.
Je rappelle l'album Les Forces Contraires, La Mort et la Lumière. Et puis la tournée qui passe par exemple le 12 mars à Château-Renard, le 23 avril à Metz ou encore le 10 mai à Paris, à la Cigale,
oui,
bien sûr.
C'est bientôt complète. Dépêchez-vous.
Ah oui, dépêchez-vous. Merci beaucoup. Merci Thomas VDB. Merci Mélanie Bauer. Merci Juliette Arnoux et Guillaume Meurice. À demain, nous recevrons Alyosha Reinhardt, héros du film Petite Nature, jeune comédien qui a seulement 14 ans.
Ah, c'est bon ça. C'est du jeune qui se secoue la pulpe.